retrouve le journal de la rédaction comme tous les jours à la mi-journée et Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Nicolas.
Il s'agit d'un rare cas d'arrestation au plus haut niveau de l'armée russe et ce en plein conflit avec l'Ukraine.
Oui, Timur Ivanov, vice-ministre de la Défense, a été arrêté pour corruption. L'homme dont le train de vie avait d'ailleurs déjà été dénoncé dans une enquête de feu. L'opposant Alexei Navalny a été placé en détention provisoire. On sera à Moscou dès le début de ce journal. Le vaste plan d'aide américain à l'Ukraine n'attend plus que la signature de Joe Biden, une formalité, et c'est évidemment, on le verra, un soulagement pour les autorités de Kiev face aux pressions constantes de l'envahisseur russe. À suivre également les négociations en cours entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour la délimitation de leurs frontières communes. On en parlera avec notre invité aujourd'hui, Gaïds Minassian. On se rendra par ailleurs en Argentine après des manifestations massives pour la défense de l'université publique gratuite. Et puis l'actualité en France, c'est tout d'abord le couperet pour des centaines, voire des milliers de salariés du groupe Casino menacés de perdre leur emploi. Enfin, on reviendra sur le délit d'apologie du terrorisme, de plus en plus souvent invoqué aujourd'hui pour limiter l'expression politique. Que la Russie souffre aujourd'hui d'un très large niveau de corruption basé sur des réseaux de népotisme et de clientélisme liés aux élites économiques ou politiques du pays qui pourraient aujourd'hui encore s'en étonner. On ne compte plus les scandales gênants pour le pouvoir en place à Moscou. En revanche, qu'un vice-ministre russe soit mis aux arrêts pour des soupçons de corruption, l'événement est suffisamment rare pour susciter toutes sortes de spéculations. Hier soir, Timur Ivanov, donc personnage clé de l'appareil militaire en charge notamment de toutes les opérations de construction diligentées par le puissant ministère de la Défense, l'un des hommes par ailleurs les plus riches présents au sein des structures sécuritaires de la Russie, a été arrêté. Alors le comité d'enquête n'a pas donné pour l'heure davantage de détails. Tout juste sait-on que le délit serait passible d'une forte amende et puis encore d'une peine de prison de plus de 10 ans. Les précisions depuis Moscou de Sylvain Tronchet.
Peu connu du grand public en Occident, Timur Ivanov est un personnage clé de l'appareil militaire russe en charge de toutes les opérations immobilières au sein du ministère de la Défense. La construction de casernes, d'hôpitaux, de fortifications, c'est aussi lui qui supervisait l'énorme chantier de la reconstruction de Mariupol. Une enquête de la fondation d'Alexei Navalny avait montré en 2022 le train de vie de milliardaires fait de villas sur la Côte d'Azur et de Rolls-Royce qu'il partageait avec sa femme, Svetlana Manyovitch, dont il est soupçonné d'avoir divorcé pour raison de convenance afin qu'elle puisse continuer à voyager en Europe, lui-même étant sous sanction. Pour autant, les arrestations pour corruption sont rarissimes à ce niveau du pouvoir russe. La mise à l'écart brutale de Timur Ivanov pourrait être un avertissement, selon certains analystes russes. Ne profitez pas trop du système en temps de guerre, à moins qu'elle ne vise directement son patron, le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, dont on ne sait pas encore s'il sera toujours au gouvernement après l'investiture officielle de Vladimir Poutine début mai.
Après des mois de négociations laborieuses, sinon acrimonieuses, le Congrès américain est finalement parvenu à adopter hier soir une gigantesque enveloppe d'aide à la fois militaire et économique, un plan de 95 milliards de dollars au total, qui signe là un retour spectaculaire de l'interventionnisme américain et destiné non seulement au soutien de Washington à son allié israélien, à des investissements pour tenir tête à son concurrent chinois, mais aussi et surtout pour aider l'Ukraine. Alors, sera-ce suffisant pour que les autorités de Kiev évitent le scénario du pire face à la Russie? Il est évidemment trop tôt pour le dire. Et d'ailleurs, à quoi va bien pouvoir servir le déblocage de cette aide massive? Élément de réponse avec Christian Chineau.
Les armes américaines doivent arriver très vite en Ukraine, dans la semaine, annonce même Joe Biden. Elles serviront d'abord à fortifier la ligne de front qui court sur plus de 1000 km. Depuis plusieurs mois, l'armée russe grignote du terrain car les soldats ukrainiens manquent cruellement de munitions et doivent économiser leurs tirs. L'assistance militaire américaine s'était interrompue il y a plusieurs semaines, ce qui mettait en grande difficulté l'armée de Kiev. Un premier décaissement américain d'$1 milliard de matériel est déjà prêt à être mobilisé. Les matériels et équipements militaires concernent essentiellement deux domaines principaux, la fourniture massive d'obus d'artillerie, mais aussi de lance-roquettes HIMARS installés sur des camions. Ce système de missiles est l'un des plus performants au monde. Il peut frapper dans la profondeur les zones occupées par la Russie dans un rayon de 70 km. L'assistance américaine couvrira aussi la défense anti-aérienne des grandes villes ukrainiennes qui sont soumises régulièrement aux bombardements russes. Sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky s'est dit reconnaissant envers le Sénat des États-Unis pour avoir approuvé une aide vitale pour l'Ukraine. Le président ukrainien qui réclame 7 systèmes de défense anti-aérienne Patriot pour verrouiller son espace aérien.
Après plus de 200 jours d'affrontements quotidiens meurtriers, la guerre à Gaza ne donne toujours aucun signe de répit. Ce matin, des frappes aériennes israéliennes ont visé plusieurs secteurs de l'enclave palestinienne. Et tandis que la situation sur place se révèle chaque jour plus apocalyptique pour les civils, l'État hébreu se dit par ailleurs toujours déterminé à lancer son offensive sur la ville surpeuplée et affamée de Rafah, présentée comme le dernier grand bastion du mouvement islamiste Hamas.
Ils étaient des centaines de milliers à manifester partout en Argentine hier contre la politique d'austérité tous azimuts du gouvernement.
Oui, une mobilisation massive, essentiellement d'ailleurs pour dénoncer une attaque brutale des autorités contre le système universitaire. En l'occurrence, le président ultra-libéral Javier Milei entend verser cette année aux établissements le même budget qu'en 2023, et ce, alors qu'avec une inflation de près de 300%, les universités auraient besoin de 4 fois plus d'argent pour fonctionner normalement. Reportage dans les rues de Buenos Aires de notre correspondante Caroline Vic.
Sur la place de Mai, des centaines de milliers de personnes de tous bords idéologiques et au beau milieu de la foule, Paola, étudiante en sociologie.
Je suis inquiète, mais on a de la force pour lutter. L'Argentine a renversé des dictatures, les femmes ont conquis le droit à l'avortement. On ne se laissera pas gagner par la peur.
Sur les réseaux sociaux, Milei a qualifié les manifestants de gauchistes endoctrinés. Mais ils ne se sont pas découragés, comme Vanina Toscano, professeure à la faculté de médecine, fatiguée par les conditions d'enseignement.
Il n'y a pas d'argent pour des bourses d'étudiants ou de chercheurs, ni pour l'électricité, la clim, le chauffage. Tout est réduit au minimum. Dans tous les domaines, on subit les conséquences.
L'université de Buenos Aires, fondée en 1821, a vu passer des présidents et des prix Nobel, mais le prestige ne paye pas les factures. Et sans argent, les facultés pourraient fermer. Camila, étudiante en médecine.
Nous sommes nombreux à être enfants de travailleurs. Si la fac ferme, on perd la possibilité d'accéder à une éducation gratuite et de qualité. Et moi, par exemple, je devrais arrêter mes études de médecine.
Toucher à l'éducation publique semble être la limite des Argentins. D'après les sondages, 85% de la population condamne la décision de Milei, dont la popularité a brusquement baissé 4 mois seulement après son élection.
Un reportage à Buenos Aires signé Caroline Vic.
Après des décennies de luttes armées souvent sanglantes, l'Azerbaïdjan et l'Arménie vont-ils enfin s'accorder sur un accord de paix ?
Oui, les deux États rivaux du Caucase ont débuté hier des discussions pour délimiter leurs frontières sur la base de cartes datant de l'époque soviétique. Les pourparlers s'annoncent toutefois difficiles. C'est vrai que depuis la reprise éclair de la région du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan en septembre dernier, les relations entre les deux pays oscillent entre une volonté affichée du moins de normaliser leurs relations et puis des incidents militaires réguliers à leurs frontières communes. Alors le contexte géopolitique notamment serait-il aujourd'hui plus favorable à ce que les deux pays parviennent à un accord de pacification ? Pour le savoir, invité de la rédaction aujourd'hui, Gaïd Minassian, enseignant à Sciences Po Paris, journaliste au Monde et auteur de Arménie-Azerbaïdjan, une guerre sans fin, publiée cette année aux éditions Passé Composé. Bonjour monsieur.
Bonjour et merci.
Est-ce que le simple fait déjà que Bakou et Erevan donc aient entamé ces négociations peut être considéré comme un progrès important ? Hier, le président azerbaïdjanais estimait qu'un accord de paix avec l'Arménie était plus proche que jamais. Faut-il y croire ?
Effectivement, vous avez bien raison de poser la question. Faut-il y croire ? Parce que, en fait, c'est un signe d'apaisement. C'est le premier en bilatéral, sans intervention, sans médiation extérieure. Donc on peut être encouragé par l'idée d'un premier apaisement, surtout que le contexte n'est vraiment pas favorable à la paix. Au nord, vous avez la guerre en Ukraine. Au sud, vous avez la crise ou la guerre entre Israël et l'Iran. Et au milieu, vous avez ce conflit. Donc l'Arménie accepte l'idée parce qu'elle y voit un signe structurant, elle y voit un signe fondamental et elle y voit un signe d'apaisement de fond. Et l'Azerbaïdjan, il voit plutôt, je pense, un signe d'apaisement de forme, de circonstance, parce qu'il y a plusieurs éléments qui interviennent dans la décision de l'Azerbaïdjan de s'asseoir autour de la table et de parler de comment dirais-je, non pas de paix, mais d'accord durable ou quelque chose comme ça.
Ça veut dire que pour l'Azerbaïdjan, le véritable intérêt, ou du moins l'une des raisons essentielles pour lesquelles le pays accepte de participer à ce processus de conciliation, ce n'est pas les risques de sanctions possibles ?
Alors, c'est une des raisons, vous avez raison, c'est la première. C'est, à Bakou, on sent qu'en Europe et aux États-Unis, il y a un risque de sanctions pour ce qui s'est passé notamment en 2023. Vous avez parlé de l'épuration ethnique. Donc ça, c'est un premier signe, histoire de montrer que, regardez, on est prêt à discuter de la paix et donc oublions les sanctions. Le deuxième élément, vous l'avez parlé dans votre journal, c'est l'aide américaine accordée à l'Ukraine qui était dans les tuyaux, on le sait, et qui d'un coup se débloque. Et donc l'Azerbaïdjan doit tenir compte de cette de ce surengagement américain dans la région, qui veut dire que l'Occident va être encore plus présent sur la périphérie de la Russie, ce qui veut dire que l'Azerbaïdjan doit en tenir compte. Le troisième élément, c'est ce qui s'est passé récemment entre Israël et l'Iran. N'oublions pas que l'Azerbaïdjan est frontalier de la Russie au nord et de l'Iran au sud, et qu'il faut aussi calmer le jeu. Et le quatrième élément, qui n'est pas si accessoire que ça, c'est que les zones qui sont aujourd'hui l'objet d'un premier signe d'apaisement, d'un premier accord, ce sont des zones qui vont repasser sous contrôle de l'Azerbaïdjan selon ce que vous avez dit au début, c'est-à-dire les frontières soviétiques. Je rappelle qu'en 1991, la déclaration d'Almaty qui met fin à l'Union soviétique, mais qui met aussi le point de départ des frontières ex-soviétiques transformées en frontières internationales, c'était la volonté de la République d'Arménie, d'aller vers ça. Parce que ça permettait de reconnaître l'intégrité territoriale des États ex-soviétiques, donc de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Et Bakou traînait les pieds. Et donc là, le fait de voir Bakou s'asseoir autour de la table sur la base de la déclaration d'Almaty, c'est un gage d'apaisement, de non pas de réconciliation, mais de compréhension mutuelle. Sauf que c'est un cas qui va en faveur de l'Azerbaïdjan. Qu'en sera-t-il dès lors qu'il y aura d'autres dossiers le long de la frontière? Je pense notamment à l'enclave d'Arzvachen. Je pense aux positions actuelles occupées par l'Azerbaïdjan sur le territoire souverain arménien. Et troisièmement, sur le sud de l'Arménie, le Sunik, qui doit être encore l'objet de discussions autour d'un couloir ou pas de couloir.
Vous parliez tout à l'heure de l'interventionnisme américain. À l'inverse, est-ce que la Russie joue encore un rôle direct ou indirect dans les relations entre Erevan et Bakou? On sait que récemment, les troupes russes d'ailleurs se sont retirées du Haut-Karabakh.
Alors effectivement, d'abord, ancienne région sous tutelle russe, forcément la Russie cherche à toujours avoir de l'influence, que ce soit en Géorgie, et on le verra bientôt avec les élections, ou même avec l'examen sur la loi des agents de l'étranger. On le voit en Azerbaïdjan, il y a un accord gazier et des intérêts économiques et stratégiques importants. Et puis avec l'Arménie, comme on le sait, ancien allié. Je dis ancien parce qu'on ne peut plus parler d'alliance comme avant. Et donc oui, la Russie cherche à rester dans la région, même si c'est difficile pour elle avec la guerre en Ukraine. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous venez de dire sur le retrait des forces russes, elles sont parties en Arménie. Mais pourquoi ? À partir du moment où c'est un État souverain, l'Azerbaïdjan, qui dit à Moscou de retirer ses troupes, les moyens sont là pour que les troupes partent, non pas du côté de l'Arménie, mais directement en Russie, il y a une frontière directe. Pourquoi en Arménie ? Et combien de temps ? Et elles sont où ? Donc ce sont des questions qui vont se poser à la fois pour Moscou, mais aussi pour le gouvernement arménien.
Encore de très nombreuses questions. Donc merci Gaëtan Minassian, enseignant, je le rappelle, à Sciences Po, journaliste au Monde, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, publié aux éditions Passé Composé, Arménie-Azerbaïdjan, une guerre sans fin. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
Vous écoutez France Culture, il est 12h43 et c'est la suite de votre journal, Thomas Cluzel.
Entre les restrictions excessives au droit de manifester ou bien l'introduction de surveillance associée à l'intelligence artificielle, la situation des droits humains en France l'an dernier a continué son érosion. C'est ce qui ressort du rapport annuel publié ce matin par Amnesty International. L'ONG basée à Londres s'inquiète également du recours abusif à la force dans le maintien de l'ordre, mais aussi des discours de haine décomplexés, racistes et stigmatisants, en particulier à l'encontre des personnes musulmanes. Enfin, s'agissant de la question de la liberté d'expression, Amnesty réclame que les délits d'apologie du terrorisme soit abrogé dans les lois. Et hasard du calendrier, il se trouve que cette question se retrouve justement en plein cœur du débat politique actuel, puisqu'hier, la chef de file des députés insoumis, Mathilde Panot, a annoncé sa convocation par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Alors cette enquête a été ouverte en l'occurrence après un communiqué du groupe parlementaire publié le 7 octobre dernier, jour de l'attaque menée par les terroristes du Hamas contre Israël. Un texte qui avait, on s'en souvient, provoqué une vive polémique en raison du refus alors des insoumis de qualifier de terroriste le mouvement islamiste palestinien. Aussitôt, le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure, a dénoncé, je cite, une atteinte grave à la démocratie. Chez les écologistes, Marine Tondelier a, elle, rappelé son profond attachement aux libertés publiques et dénoncer la fameuse loi Cazeneuve de 2014 qui a donc permis de limiter l'expression politique sous prétexte d'apologie du terrorisme. Chloé Le Prince, bonjour.
Bonjour.
Alors rappelons que ce délit s'inscrivait auparavant dans le cadre de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, mais depuis donc son intégration au sein du code pénal, non seulement les peines encourues ont été renforcées, mais surtout ce délit d'apologie du terrorisme a été de plus en plus souvent invoqué, au point de faire à présent l'objet de vives critiques. Pour quelles raisons ?
C'est d'abord l'augmentation très nette des procédures qui fait débat depuis les attentats de 2015 et plus encore depuis le 7 octobre. La semaine dernière, à Lille, un militant CGT a été condamné pour apologie du terrorisme. Les parquets s'autosaisissent davantage dans ces affaires. Il y a aussi davantage de signalements par des particuliers sur la plateforme Pharos. Pharos voit le jour en 2009 pour signaler des contenus illicites et après Charlie Hebdo, en 2015, Pharos devient un outil de détection du terrorisme. Les associations sont aussi de plus en plus nombreuses à porter plainte. Pour la chercheuse Vanessa Codaccioni, derrière cette augmentation spectaculaire, on retrouve aussi une volonté politique au ministère de la Justice.
Éric Dupond-Moretti a envoyé une circulaire disant qu'il fallait être très attentif au phénomène d'apologie du terrorisme et en indiquant précisément qu'est-ce qui pouvait rentrer dans l'apologie du terrorisme. Et il a indiqué par exemple que dire que l'attaque du 7 octobre était un acte de résistance, était de l'apologie du terrorisme. C'est-à-dire qu'il donne l'éventail des possibilités de ce qui va rentrer dans l'apologie. Et il dit, il faut être vigilant, il faut être réactif, il faut être sévère sur ces questions-là. Et c'est ça aussi qui explique l'explosion.
Alors c'est aussi l'esprit de la loi qui a changé. Le délit d'apologie du terrorisme date de 2006. Mais terrorisme, ça n'arrive dans le code pénal qu'en 1986. Jusqu'ici, le terrorisme, c'était d'abord une question de sûreté de l'État. Ça commençait par ce qu'on appellera les lois scélérates. C'est pour les militants anarchistes qu'on a inventé en droit l'apologie du crime à la fin du 19e siècle. Tout change en 2014. L'apologie du terrorisme a désormais un nouveau régime. Tant que ça relevait du droit de la presse, c'était de l'opinion. Un droit plutôt protecteur et libéral en France, c'est fini. L'apologie du terrorisme depuis 10 ans, c'est désormais du droit commun. Et le terrorisme, un phénomène global à réprimer en amont et en aval jusqu'au potentiel soutien moraux, symbolique et politique.
Merci Chloé Le Prince.
Duralex va-t-elle être placée en redressement judiciaire ?
Le tribunal de commerce d'Orléans doit décider cet après-midi du sort de l'entreprise mythique de verrerie française dont la vaisselle est certes réputée incassable, mais qui aura dû malgré tout payer en l'occurrence les pots cassés après la flambée des prix de l'énergie d'une part et l'inflation d'autre part. L'entreprise qui emploie 230 salariés espère encore trouver un repreneur. Pour eux en revanche, l'affaire semble entendue. Ce sont les salariés de Casino, entre 1293 et 3267 postes pourraient être supprimés au sein du groupe en fonction du nombre de magasins et d'entrepôts non encore cédés qui trouveront preneur ou non d'ici septembre prochain. C'est ce qu'a annoncé ce matin le distributeur, précisant aussitôt qu'un millier d'emplois seront préservés au sein du siège historique de Saint-Étienne, quoi qu'il en soit, et même dans l'hypothèse la plus optimiste ou plutôt la moins pessimiste, c'est d'ores et déjà le plus grand plan social annoncé en France depuis le début de l'année. Précision de Camille Magnard.
Forcément, avec 230 hyper et supermarchés vendus à Auchan, Intermarché et à Carrefour, avec un groupe qui se recentre sur ses enseignes de proximité, Monoprix, Franprix, Naturalia et les petits casinos, la saignée est profonde. Un emploi sur trois, environ 550, devrait être supprimé au siège historique de Saint-Étienne. Et le reste, dans les autres directions du groupe, tout est fait pour fusionner les fonctions support, pour réduire les effectifs et les coûts de fonctionnement également sur le réseau logistique. Et puis, il y a surtout cette grosse incertitude, le sort des 1974 salariés des quelques hypermarchés et plateformes logistiques qui n'ont toujours pas trouvé de repreneur. Si aucun ne s'est signalé avant septembre, alors le nombre de postes supprimés s'élèvera à 3260 en tout. Tout ça va bien sûr donner lieu à des discussions entre la nouvelle direction et les syndicats à partir du 6 mai, mais à l'arrivée, la facture des erreurs et des dettes accumulées pendant les années Jean-Charles Naouri chez Casino s'annonce particulièrement sévère pour les salariés du groupe. Ils étaient 50 000 en France il y a un an et demi. Il ne devrait plus en rester que la moitié à la fin de cette grande transformation amorcée par l'équipe de Daniel Kretinsky, convaincu que c'est la seule manière de sauver ce qu'il reste du groupe Casino.
Le principal syndicat majoritaire des aiguilleurs du ciel annonçait ce matin la levée de son préavis de grève pour demain. Un accord aurait été trouvé avec la direction générale de l'aviation civile sur un projet de réforme du contrôle aérien, ce qui ne devrait pas empêcher d'ailleurs encore quelques perturbations dans les aéroports. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi avec des averses plus fréquentes dans l'est et le nord du pays. En revanche, le sud devrait conserver un temps ensoleillé. Quant aux températures, elles afficheront entre 9 et 19 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.